Et tout de suite, Pierre nous a rejoint en direct sur le plateau. Salut Pierre.
Salut tout le monde.
Comment ça va?
Ça va très bien, merci.
Et on te retrouve une dernière fois cette année, toujours pour parler d'architecture. Tu nous parles de nouvelles techniques architecturales.
Oui, de nouvelles pratiques architecturales. Pratiques architecturales. On va dire plutôt. Ouais.
Et tu continues à nous parler de cette fameuse permanence urbaine.
Exactement. Donc, je voulais faire suite à l'intervention que j'avais faite la semaine dernière. Donc, c'est toujours en tant que stagiaire architecte à l'agence Compagnie Architecture que j'étais venu présenter un petit peu les coulisses des études urbaines et d'une étude urbaine en particulier et de la démarche que Compagnie Architecture vient de mettre en place qui est la permanence urbaine et ce qui est une démarche assez rare quand même dans le domaine de l'urbanisme en France. Donc je voulais aujourd'hui apporter plus de précisions sur cette démarche de projet et vous parler aussi du territoire d'études.
Juste avant, est-ce que tu peux nous faire un petit rappel sur cette étude urbaine? Où se déroule-t-elle et qui commande cette étude?
Donc, on va essayer. Alors, pour faire court, déjà, l'agence dans laquelle je fais mon stage, donc Compagnie Architecture, elle fait partie d'un groupement de maîtrise d'œuvre avec des architectes, des urbanistes et des paysagistes qui ont répondu à ce que l'on appelle un appel à candidature pour l'étude urbaine de requalification de l'entrée de ville de Saint-Médard-en-Jalles. Donc rapidement, Saint-Médard-en-Jalles, c'est une commune périurbaine à l'ouest de Bordeaux et qui est membre de Bordeaux Métropole. Et toutes deux, Bordeaux Métropole et la ville de Saint-Médard-en-Jalles, elles ont demandé à un organisme de recruter une équipe pour réaliser ce que l'on appelle donc une étude urbaine à laquelle Compagnie Architecture a répondu avec rapidement deux agences qui s'appellent 2PM Architecture et le paysagiste Charles Dard. Et donc cet organisme qui a été demandé par Bordeaux Métropole et Saint-Médard-en-Jalles, comme on l'a vu la dernière fois, j'espère que vous en rappelez un petit peu, c'est la FAB, la Fabrique de Bordeaux Métropole. Rapidement, c'est une société publique locale et elle est en charge de mettre en œuvre des programmes habités et entreprendre qui sont fixés par la métropole au travers d'études urbaines. Et l'objectif donc de cette étude, eh bien, c'est de dessiner un plan guide d'aménagement du territoire. Et il faut le dire, c'est tout de même un territoire où se croisent beaucoup d'enjeux au sein de la métropole.
Comment ça, beaucoup d'enjeux? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus?
Eh bien, il y a d'abord une route majeure qui vient traverser le territoire et qui vient couper en deux ce quartier, qui s'appelle l'avenue Descartes. Donc, cette avenue Descartes, c'est une route départementale qui est très passante et qui relie le centre-ville de Saint-Médard-en-Jalles à Bordeaux. Et c'est l'ancienne route pour aller à Lacanau. Cette route est en plein travaux pour accueillir ce que l'on appelle le BHNS, c'est le bus à haut niveau de service, reliant plus rapidement le centre de Bordeaux à sa périphérie et l'une des lignes rejoint donc le centre-ville de Saint-Médard-en-Jalles. Et à l'entrée de cette commune de l'ouest de Bordeaux, cet axe routier, eh bien, il est bordé d'un grand centre commercial Leclerc, très important dans les alentours et qui a une influence un petit peu régionale au final. Et cet axe routier, eh bien, ce centre commercial, il est vraiment très très grand. Il arrive à une surface de près de 50 000 m², soit l'équivalent quand même de 7 terrains de rugby. Donc il faut imaginer, c'est construit. Hein. On voulait un petit peu changer par rapport à la comparaison en terrain de football. Et donc face à cette zone commerciale qui a vraiment une influence dans tout l'ouest de la métropole bordelaise, d'autres magasins de plus petite dimension se sont implantés. Le tout est bordé d'un parking en enrobé, zone complètement imperméable. Derrière ces surfaces commerciales, on découvre un quartier résidentiel assez particulier. Celui-ci commence par des immeubles de logements collectifs, les résidences Berlin-Camp, nom du quartier étudié, et des maisons individuelles avec jardins dont les plus anciennes datent des années 1950. Nous nous baladons alors dans des rues calmes, bordées de jardins et de maisons presque identiques les unes aux autres, dans un quartier où la nécessaire voiture règne toujours en maître. Alternant entre maisons individuelles et petits collectifs de maisons mitoyennes, nous arrivons enfin face à une forêt de pins, à l'aspect encore sauvage, la forêt des Jalles, bordée par la piste cyclable Bordeaux-Lacanau. Un vrai bol d'air après avoir foulé des dizaines de mètres de parking bétonné. Le ruisseau du Haillan, qui se jette dans la Jalle voisine, terminant sa course dans la Garonne, donne un réel charme à ce petit coin de la métropole. Un territoire pavillonnaire sans charme particulier pour certains, une entrée de ville anonyme et anodine, comme on en trouve partout en France pour d'autres, ou bien encore, nous dit-on, un quartier parfait, à proximité à la fois des commerces, des transports en commun et d'une belle forêt traversée par de nombreux cours d'eau. L'eau, justement, la grande oubliée de l'aménagement urbain du XXe siècle, est en fait bien présente. Comme l'explique le paysagiste Charles Dard, membre du groupement de maîtrise d'œuvre, elle façonne le territoire et a été l'autre fois la condition d'installation des terres agricoles. Avant, le bord des ruisseaux était occupé par l'homme qui cultivait la terre alors que les alentours étaient boisés et inoccupés. Aujourd'hui, c'est tout l'inverse. Les bois ont été remplacés par des maisons et donc habités par l'homme et les bords de ruisseaux ont été laissés à l'abandon, la nature se retranchant autour des cours d'eau. Ce territoire, pour le comprendre, Compagnie Architecture s'y installe pendant un mois et demi, à la rencontre des habitants et usagers du site. 4 jours par semaine, des deux côtés de l'avenue Descartes, nous arpentons le territoire pour composer ensuite un plan d'aménagement avec le groupement et nourri par la parole des habitants. Au pied des immeubles de logements collectifs, cette présence avec une grande maquette de 1m40 par 1m40 surprend et est nécessaire avant de démarrer le dessin des futurs aménagements. Base de toutes les discussions avec les habitants, la maquette est, pour Compagnie Architecture, la mascotte du projet et un outil universel de discussion, contrairement à des cartes qui peuvent parfois perdre un local qui connaît pourtant bien mieux le territoire que nous. À l'échelle 1/500, elle rend compte de la taille impressionnante du centre commercial et sert de support aux propos de chaque résident lors des ateliers organisés par exemple les mercredis. Lors de ces temps de travail collectif, une thématique est choisie, des cartes sont gribouillées, des idées sortent. Comment améliorer tel trottoir, l'accès à telle route, tel croisement ou l'espace de pied d'immeuble presque laissé à l'abandon? Ces questions sont aussi posées les jeudis à un public différent, celui venant consommer au Leclerc, installé dans la galerie commerciale chaque jeudi, commerçants et clients nous donnent leur avis sur ce territoire. Imaginez 2 personnes collant des bouts de maquettes et discutant avec les passants en pleine galerie commerciale, ce peut être moi avec ma collègue Anaïs. En balade et en porte-à-porte les vendredis, il est temps d'observer un peu plus finement le site à travers le regard et les commentaires d'habitants enthousiastes à l'idée de nous faire découvrir les lieux. Ce quotidien, rempli de rencontres et d'échanges avec les locaux et usagers du territoire, vient cadrer cette permanence urbaine, démarche que Compagnie Architecture a déjà expérimentée plusieurs fois, comme le raconte Audrey, architecte salariée de l'agence. Je vous propose maintenant de l'écouter parler de sa permanence urbaine pour l'étude de valorisation de l'îlot des Genêts à Parampuire, au nord de la métropole bordelaise.
Donc du coup, je suis avec Audrey qui a fait une permanence urbaine à Parampure. Donc c'était il y a environ donc, 1 an où que ça a été complètement fini, ce projet-là. Donc est-ce que tu pourrais nous expliquer comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu en as eu comme retour?
Donc j'ai commencé cette permanence urbaine dans le cadre de l'étude pour la valorisation de l'îlot des Genêts à Parampure. Donc c'est une ville en périphérie de Bordeaux, au nord de la métropole. Je suis arrivée en stage chez Compagnie Architecture en septembre 2021 et c'est à ce moment-là qu'on a commencé la permanence. Donc le principe c'était que je sois sur place 2 jours par semaine, le mardi et le mercredi, pour rencontrer les habitants, arpenter le territoire et ça a duré 6 mois. En fait, il y a eu 2 phases. Donc la première phase c'était une phase vraiment d'état des lieux. Donc c'était important qu'on soit présent sur place 2 jours par semaine pour pouvoir voir chacun des habitants. Donc, je vais reprendre le contexte. L'îlot des Genêts, c'est un îlot pavillonnaire qui est à proximité du centre-ville de Parampure. Un îlot pavillonnaire assez récent avec des maisons construites pour la plupart dans les années 80-90. Donc c'est une urbanisation qui s'est faite quand même assez récemment. Et il reste sur cet îlot 7 hectares qui sont non bâtis au cœur de l'îlot, donc c'est des fonds de jardin. Des fonds de jardin qui appartiennent à des propriétaires privés. Et c'était tout notre sujet, comment anticiper les mutations futures, puisque les terrains ont été gelés par un périmètre d'attente d'un projet d'aménagement global et qui se finissait tout juste. Donc potentiellement, les propriétaires avaient intention de construire sur certaines parcelles. Et donc essayer de concilier tout ça avec les enjeux paysagers et écologiques, puisqu'on s'est rendu compte assez vite que la nature était aussi présente en ville et pas qu'à l'extérieur.
Et donc Audrey, pour cette permanence urbaine, tu étais où? Comment vous y êtes pris?
J'étais 2 jours par semaine au Vieux Logis, un local de la mairie, une annexe dans un centre sportif à 15 minutes du site. Donc c'était pour le coup un local de permanence peu visible et isolé, assez loin du site, avec très peu de passages. Donc l'idée, c'était pas d'avoir du monde tous les jours, d'essayer de parler aux gens qu'on croisait dans la rue, parce que la situation ne nous le permettait pas, et parce qu'on était aussi dans un contexte avec des habitants qui n'avaient pas besoin de passer là tous les jours. J'étais assez éloignée et pas visible, donc fallait que je trouve des outils qui permettent de faire les rencontres sous d'autres formes que en étant attractive, on va dire, dans la rue. Donc il y a eu plusieurs choses. J'ai réalisé des entretiens individuels avec une cinquantaine d'habitants pour pouvoir vraiment identifier les situations personnelles à chacun, puisque c'était tout le sujet de l'étude, puisque les terrains étaient privés, donc il fallait vraiment avoir un retour de chaque propriétaire et habitant de cet îlot. Ensuite, il y a eu les ateliers. Donc ça, c'était l'aspect plus collectif. Donc j'organisais des ateliers en petits groupes de 5 à 10 personnes. Et ensuite, moi, j'allais faire de l'arpentage sur le site. Donc je partais faire du porte-à-porte, des reportages photographiques et même des balades un peu plus loin que l'îlot pour vraiment essayer de comprendre ce que me racontaient les habitants, en fait, parce qu'à chaque entretien... Ils venaient me parler des constructions qui se sont faites un peu plus loin dans la ville, et donc j'avais besoin de vraiment de visualiser ce dont ils me parlaient pour comprendre leur avis, en fait. À côté de ça, on avait aussi les restitutions publiques intermédiaires et finales un peu tout au long de ces 6 mois. Il me semble qu'on a fait 2 restitutions intermédiaires et 1 restitution finale. Pendant ces restitutions, on essayait aussi de faire des pas de côté. Donc, la première fois, on a fait intervenir une environnementaliste pour qu'elle sensibilise aussi chaque habitant aux enjeux écologiques de l'îlot, puisque c'est quelque chose qui nous semblait important. Et on a aussi fait venir José Lepiez, qui est un artiste qui a pour sujet l'arbre, et pour rencontrer les habitants et amener aussi à regarder le site autrement, puisqu'il y a un cadre paysager assez exceptionnel pour un centre-ville. Ensuite, il y a eu une deuxième phase où j'étais moins présente. Après, c'était toujours de la permanence, puisqu'on essaye de porter toujours une attention au site et aux habitants, même si on n'est pas présent sur place aussi régulièrement. Donc c'était faire des ateliers ponctuels, et avoir un contact avec notamment les propriétaires de l'îlot.
Selon toi, pourquoi est-ce que cette démarche de permanence, en quoi est-ce qu'elle a participé à nourrir un peu le projet ?
Alors, pour moi, elle était essentielle sur ce projet, puisque dès la première réunion publique, j'ai pu voir qu'il y avait beaucoup de réticences de la part des habitants. En fait, on s'est rapidement rendu compte qu'on n'était pas forcément les bienvenus sur le site. Le simple fait, en fait, de lancer une étude, même si c'était une étude urbaine, programmatique, sans projet initial, il y avait un a priori assez important. Tous les ateliers, au fur et à mesure, ils ont contribué à déjà faire se rencontrer les habitants, puisqu'on est dans un contexte pavillonnaire, et en fait, ils ne parlent pas forcément entre voisins. Donc déjà, on est arrivé avec la maquette, et tout de suite, ça a été un objet de rencontre. Donc ça leur permettait de s'identifier et ensuite de rencontrer les personnes qui étaient au cours d'eux. Ça lançait pas mal de discussions. Et donc déjà, ça a créé une synergie et on a commencé à vraiment réunir. Et donc ça contribuait vraiment à faire que le projet soit commun et pas individualisé. On voulait que chacune des interventions qui soient réalisées soit en cohérence les unes avec les autres, et que chaque projet ne se fasse pas de son côté. Donc on essayait vraiment d'avoir une vision d'ensemble du paysage. Et donc au cours des ateliers, il y a vraiment eu ce changement aussi de perception. Donc déjà, on a réussi à faire accepter notre présence et aussi à la faire comprendre. Il a fallu réexpliquer aussi assez régulièrement quel était notre rôle. Et finalement, à la fin de l'étude, tout le monde était assez satisfait et même ceux qui n'avaient pas envie de nous voir au tout début.
Au début, ouais. Toi, en tant qu'architecte, est-ce que tu penses que ça a un peu changé ta vision de pratiquer l'architecture ?
Alors moi, en tant qu'architecte, ça m'a rassurée de voir déjà qu'on pouvait mettre en place ce type de méthode, puisque c'est quelque chose qui, déjà, avant de venir, me paraissait essentiel. Mais j'avais aussi l'impression que c'était pas une démarche qui se faisait dans beaucoup d'agences, donc vraiment j'ai été très très contente de faire cette expérience là parce que ça montre que c'est possible et je pense qu'on apprend aussi énormément du terrain. Et dans cette étude c'est le cas, mais dans d'autres aussi, je pense que sans toutes ces données, oui, on peut pas faire un projet qui convienne à tout le monde et qui soit juste.
Donc ça te paraît essentiel au final un peu?
Oui, après c'est une méthode qui est adaptée dans chacune des situations, mais oui, c'est utile.
Campus Bordeaux 88.1.
Campus Bordeaux 88.1.
Et on arrive au terme de cette chronique permanence urbaine, c'était la deuxième partie. Il y a la première partie qui est d'ores et déjà en ligne et que vous pouvez retrouver sur notre SoundCloud et Spotify. Et puis c'est aussi la fin des épisodes d'architecture en tout genre, Pierre, puisque
exactement,
tu termines cette saison radiophonique avant de partir pour de nouveaux horizons.
Et oui, exactement. Et merci à Radio Campus de m'avoir accueilli pour cette émission et pour ces deux petites interventions en tant que stagiaire chez Compagnie Architecture. Merci bien et bel été à tout le monde.
Merci à toi. Ces deux dernières semaines, tu es venu nous parler de permanence urbaine, mais tout au long de ces derniers mois, on t'a plutôt retrouvé pour partager l'architecture écriture croisée. C'était un moment plein d'échanges et de rencontres. On a pu découvrir davantage sur l'architecture et surtout sur l'écriture, la place de l'écriture. Toi, quel bilan tu dresses de cette saison de partager l'architecture et écriture croisée ?
Eh bien, déjà, je vous remercie. Et il se trouve quand même que je trouve que de manière générale, on ne connaît pas l'architecture. Et moi, je trouve ça quand même fou. Et c'est pour ça aussi que je voulais venir intervenir. J'aimerais venir un petit peu continuer. Déjà, ça m'a lancé dans la radio. Je trouve ça juste génial. C'est juste trop bien, Radio Campus, de pouvoir parler librement de ce qu'on veut, de venir. On s'installe et vous nous accueillir les bras ouverts. Déjà, ça fait beaucoup plaisir. Et j'aimerais continuer. Il y a par exemple un projet de renouvellement urbain qui se fait juste là, le quartier de Sèges. Je pense que tu vois ce que c'est avec les grandes tours.
Et oui, tout à fait. C'est juste à côté de Radio Campus.
Exactement. Et depuis la passerelle en haut de la Maison des Arts, depuis Radio Campus, eh bien, on le voit. Et justement, j'aimerais peut-être venir derrière faire une intervention dessus un jour. Donc, c'est le fait de pouvoir continuer à parler à la radio et de démocratiser un petit peu l'architecture, alors que c'est fou parce qu'on l'a tout autour de nous.
En tout cas, on espère te réentendre sur nos ondes à l'avenir.
J'espère aussi venir.
Et puis, on te souhaite également un bel été et une très bonne continuation.
Merci bien.